L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Et c'est parti pour la dernière du vestiaire en ce vendredi 26 juillet 2024, dernière de la semaine. Et dernière pour moi avant un petit deux semaines de vacances, mais pour les Olympiques, ben c'est un départ, lancement de cette nouvelle année olympique du côté de Paris, alors que se déroule actuellement la cérémonie d'ouverture sur la scène. Alors une première de voir... Une première de notre vivant, on peut dire, que les Olympiques se déroulent à l'extérieur et non pas dans un stade. Ça a commencé sur la scène, une parade nautique historique précédée d'heures sous tension entre pluie et sabotage du réseau ferroviaire français. Donc, évidemment, ça brasse beaucoup. Pas tout le monde qui est d'accord avec l'arrivée de ces Jeux. C'est quand même des coûts importants. On sait que la vie coûte de plus en plus cher. Et je mentionnais, c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux sort d'un stade olympique. Paris, on dit hors normes, logistique, artistique comme sécuritaire pour le Comité international olympique et pour la France qui attend depuis un siècle d'organiser ces Jeux d'été. Hein, on se souvient que la dernière fois que les Jeux ont lieu à Paris, c'est en 1924, il y a exactement 100 ans. Alors, le spectacle qui a commencé par un court-métrage avec l'humoriste Jamel Debbouze, qui est très populaire en France, torche en main avec dans le Stade de France, totalement vide, avant de la transmettre à une icône française, Zinedine Zidane, l'ancien numéro 10 des Bleus, qui s'est embarqué dans une course qui l'a mené dans le métro, les catacombes pour transmettre le flambeau à un trio d'enfants qui ils apparaissent en chair et en os dans une barque sur la Seine. Mélange de spectacles vivants le long de la Seine, images diffusées. Spectacle commence en parallèle de la parade des délégations. Et un parcours magique, donc ces pays, plus de 200 nations qui sont représentées dans ces Jeux olympiques et lors de cette quinzaine des Jeux qui va se dérouler. Et évidemment, on va surveiller ce que vont faire évidemment nos athlètes canadiens. Au total, on parle de 6800 sportifs, 205 délégations. Et de la manière qu'on a amené ça, c'est ça qui est spécial, sur des bateaux. Alors, embarqués sur 85 bateaux doivent désormais descendre le fleuve durant un défilé inédit lors de cette cérémonie qu'on parle de près de 4 heures, prélude à 2 semaines de compétition jusqu'au 11 août. Évidemment, la Grèce, pays de l'olympisme antique, a ouvert le défilé qui sera clos, comme il est de tradition, par la délégation du pays hôte, la France, évidemment. Et on parle que sur les quais et les ponts de Paris, il y a plus de 320 000 spectateurs. C'est quand même assez impressionnant. Et vous pouvez suivre ça. Il y a Radio-Canada qui montre cette cérémonie d'ouverture. Là, je suis en train de regarder, mais en fait, c'est même pas ça pas à tout qui monte, là, côté de cérémonie d'ouverture, alors que sur RDS, c'est exactement la même chose. Donc, il y a RDS et Radio-Canada qu'on peut suivre la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. On y reviendra un petit peu pour les Jeux olympiques. Tiens, parlons un petit peu des nouvelles. Bien, ça a été confirmé aujourd'hui par l'Organisation du Canadien de Montréal. Mais vous l'avez appris, sur les ondes du 92.5, je pense que c'est mardi matin, Michel Tifo qui est sorti de ses vacances pour nous annoncer cette triste nouvelle. L'attaquant Raphaël Harvey-Pinard qui a subi une intervention chirurgicale à la suite d'une fracture à une jambe. Il s'est fait opérer jeudi et en conséquence, bien, il ratera au total 4 mois d'activité. On ignore pour l'instant, durant un entraînement, qu'il s'est blessé et on n'a pas précisé du côté du Canadien. Donc, vraiment ce qui s'est passé. Mais le joueur originaire de Saguenay, ici âgé de 25 ans, donc devra rater le début de la saison régulière qui aura lieu le 9 octobre contre les Maple Leafs de Toronto. On sait que Raphaël Harvey-Pinard avait raté la moitié de la saison dernière en raison de deux blessures qu'il avait forcé à rater plusieurs dizaines de matchs, blessure à une jambe droite entre autres. Il n'avait joué que 45 rencontres et réussi 2 buts et 8 passes. Il avait quand même marqué 15 buts à sa première, 14 buts à sa saison un peu plus complète avant celle de l'an dernier. On va parler un petit peu des Alouettes qui ont retrouvé le sentier de la victoire hier. On avait quelques points d'interrogation face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Avec la blessure, entre autres, du quart arrière, Cody Fajardo. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il sera en mesure de revenir. Mais là, même le deuxième quart arrière, Caleb Evans, semblait avoir un peu de difficulté. Alors, Jason Moss a décidé, je prends une chance, je vais avec Davis Alexander. Et avec l'arrivée d'Alexander, on a complètement renversé la vapeur. Une bouffée d'air frais pour les Alouettes qui sont revenus de l'arrière et ont remporté une victoire impressionnante de 20 à 16. Et ont maintenant porté leur fiche à 6 victoires et une seule défaite depuis le début de la saison. Ils ont le meilleur dossier de la Ligue canadienne de football. On dit même s'ils ne disposent en fait que d'une courte expérience dans le football canadien. Alexander a donné raison à son entraîneur de se tourner vers lui. Et au grand plaisir de la foule, alors que c'était vraiment le jour et la nuit entre son éclat et le jeu terne d'Evans, qui avait été hué un peu plus tard lors du deuxième quart. Alors dès son entrée en scène, au retour à la mi-temps, Alexander a mené les Alouettes dans une séquence offensive qui s'est complétée par un toucher de Reggie White. D'ailleurs, c'était la première passe de toucher en carrière pour Alexander dans le circuit canadien. Mais c'était loin d'être un spectacle éphémère comme des feux d'artifice estivaux, on dit. Il a poursuivi son exposé plus que convaincant en complétant ses 12 premières passes, si bien que toute l'équipe a été dynamisée. Mais là, après ça, on a poursuivi sur cette séquence et on est allé chercher cette importante victoire. Donc, un dossier de 6 et 1. Et pour les Rough Riders, c'était une deuxième défaite cette saison, eux qui ont maintenant un dossier de 5 et 2. Alors, les deux équipes avaient le même dossier avant cette rencontre. Maintenant, prochain match pour les Alouettes, ce sera la semaine prochaine. On va surveiller des matchs quand même intéressants en fin de semaine. Ce soir, Calgary est à Ottawa pour affronter le Rouge et Noir. Samedi, Winnipeg contre les Argonauts à Toronto. Et dimanche, les Tiger Cats d'Hamilton sont à Edmonton pour affronter les Elks. Baseball, ça a commencé à bouger un petit peu dans le baseball majeur. On sait qu'on est à quelques jours, à 4 jours seulement de la période de transaction. Et là, il y a quelques noms qui ont été transigés au cours des dernières heures. Et il y a quand même des noms là, intéressants. Alors, le premier, ça concerne le joueur, petit joueur étoile, Randy Arozarena des Rays de Tampa Bay, qui a été échangé aux Mariners de Seattle. En retour, les Mariners cèdent aux Rays 2 joueurs des ligues mineures, le lanceur Brody Hopkins et le voltigeur Aiden Smith. Et on dit un joueur qui va être dévoilé ultérieurement. À Rosarena, on parle d'un joueur polyvalent, dynamique, quand même assez plein d'énergie, qui a excellé dans les plus grands moments et sur les plus grandes scènes. Les Mariners qui sont en chute libre depuis environ un mois, ce qui leur a fait perdre une avance de 10 matchs dans la section ouest de l'Américaine et en grande partie à cause de l'attaque qui est en difficulté depuis le 19 juin. Et l'équipe a un dossier de 9 victoires et 20 défaites et se retrouve désormais derrière les Astros de Houston. Arozarena aura donc une bonne chance de relancer sa saison et d'aider les Mariners au bâton. Saison plus que difficile pour le frappeur qui frappe seulement pour 213 depuis le début de l'année. 15 circuits, 36 points produits, tout ça en 99 rencontres. L'an dernier, il avait atteint un sommet en carrière avec 23 circuits, mais il est en voie de connaître une quatrième saison consécutive d'au moins 20 longues balles. Mais peut-être là, retrouver son flair au bâton, parce qu'une moyenne de 213, c'est assez ordinaire. Autre transaction qui est survenue aujourd'hui, c'est entre deux équipes qui sont quand même dans des bonnes positions pour participer aux éliminatoires. Ça, c'est quand même un peu surprenant. Les Phillies de Philadelphie et les Orioles de Baltimore ont transigé des joueurs. Et les Phillies qui ont acquis le voltigeur étoile Austin Hayes des Orioles en retour du lanceur droitier Seranthony Domínguez et du voltigeur Christian Patch dans une transaction entre meneurs de la section Ouest. Ça, c'est quand même un peu spécial. Hayes est un voltigeur de centre partant de la Ligue américaine au match des Étoiles en 2023. A connu un piètre début de saison. Il n'a réussi que 3 circuits, 14 points produits en 63 matchs cette année. Peut-être un changement d'air. Les Orioles qui ont amorcé la journée de vendredi avec un dossier de 61 victoires et 41 défaites. Deux matchs devant les Yankees de New York. Pour ce qui est des Phillies, bien, eux, ils ont le meilleur dossier des Ligues majeures à 64 victoires et 38 revers. Pour ce qui est de Domínguez, bien, il est âgé de 29 ans. Il a joué 6 saisons avec les Phillies, 230 matchs. Cette année, on parle d'un dossier de 3 victoires et 2 défaites et une moyenne de points mérités de 4,25. Pour ce qui est de Patch, eh bien, lui, il a joué 50 matchs avec les Phillies et présente une moyenne au bâton de 302. Les Dodgers de Los Angeles, bien, on pensait bien qu'ils allaient faire des acquisitions, mais là, ils ont échangé le lanceur canadien James Paxton. Lui, il est transigé. En fait, il retourne avec les Red Sox de Boston. Les Red Sox ont acquis le gaucher des Dodgers via une transaction en retour du joueur des ligues mineures, Moises Bolivar. Et fait, pour faire une place à Paxton dans la formation des 40 joueurs, bien, les Sox ont transféré le nom du joueur Brian Mata sur la liste des blessés de 60 jours. On sait que plus tôt cette semaine, les Dodgers avaient désigné pour assignation Paxton avec des retours de Clayton Kershaw et de Tyler Glasnow. Alors, il n'y avait plus vraiment de place pour Paxton. En 18 départs cette saison, le lanceur de 35 ans avait quand même un dossier intéressant de 8 victoires et 2 défaites, conservait une moyenne de points mérités de 4,43. Mais c'est son contrôle qui inquiétait un petit peu les Dodgers avec 48 buts sur balle accordés en 89 manches et un tiers. 174 départs en carrière pour Paxton avec Seattle, il y a les Yankees, les Red Sox et les Dodgers. Là, bien, il retourne à Boston. Quand même une fiche intéressante de 72 victoires et 40 défaites et moyenne de points mérités de 3,76. Pour ce qui est de Bolivar, qui a été acquis par les Dodgers, on parle d'un joueur du Venezuela qui est âgé seulement de 17 ans. Ça, c'est quand même spécial. Frappé pour 270 avec 3 circuits et 19 points produits dans le club-école des Red Sox dans la Ligue dominicaine de baseball estivale. Il a accepté l'offre des Red Sox en janvier en tant que joueur autonome international. Il a 17 ans. Attendez-vous pas à ce qu'il fasse le saut dans le baseball majeur de sitôt. Ça risque d'être quand même assez long. Et on revient hier sur les événements. Les Blue Jays qui ont été massacrés, écrasés par les Rays de Tampa Bay 13-0. Mais une chose qui était quand même spéciale, bien, c'était le retour de Clayton Kershaw au monticule pour les Dodgers de Los Angeles. Lui qui n'avait pas lancé depuis la fin de saison dernière, effectuait un retour après avoir guéri une blessure opérée à l'épaule gauche pendant la saison morte. Celui qui a gagné le Cy Young à 3 reprises en 2011, 2013 et 2014 a quand même bien fait en 4 manches, donnant 2 points, 6 coups sûrs ainsi que 2 buts sur balle. Il a réalisé 6 retraits au bâton. Il est devenu le premier lanceur à porter l'uniforme des Dodgers pendant au moins 17 saisons. On pensait bien que son séjour à Los Angeles était terminé après la fin de la dernière campagne. Ben, il faut croire qu'on a décidé de lui faire confiance. Et il semblait quand même en bonne forme et ça va être encourageant pour les Dodgers qui engagent la dernière portion du calendrier de belle façon. Alors, c'était la plus longue absence de la carrière de Kershaw, mais il est revenu quand même là, de belle manière. On parle également de Max Scherzer qui, également en fin de semaine, a atteint le top 10 du baseball majeur pour les retraits au bâton en carrière. C'est quand même pas n'importe quoi. Celui qui a remporté un peu, en fait, comme Kershaw, 3 Cy Young dans sa carrière, a devancé Justin Verlander lorsqu'il a passé dans la mitaine le frappeur désigné des White Sox et Eloy Jimenez en deuxième. C'était son 3394e retrait sur des prises. Scherzer, qui a un dossier de 2 victoires et 3 défaites cette année, a retiré 9 frappeurs sur des prises en 6 manches et terminé la rencontre avec 3400 retraits au bâton, bon pour la 10e place en carrière. c'est quand même pas n'importe quoi. Là. C'est une belle performance. C'est Texas qui a battu Chicago par la marque de 2-1. Et à deux jours de son 40e anniversaire, Scherzer disputait un 464e match en 17 saisons avec l'Arizona, Détroit, Washington, les Dodgers, également les Mets de New York. Évidemment, bon, il est quand même assez loin du meneur au total pour les retraits au bâton. Pas besoin de vous dire que c'est Nolan Ryan. Nolan Ryan, lui, c'est pas seulement les retraits au bâton qu'il détient quelques records. 5714. Il vient d'en faire 3400. Il y en a 5714, Nolan Ryan. Quand même donné beaucoup de buts sur balle aussi, il faut dire, là. Mais j'en parlais un petit peu ce matin. On ne verra plus ce genre de record arriver, puisque maintenant, les lanceurs ne lancent plus autant qu'ils lançaient à une certaine époque. Je prends l'exemple de Nolan Ryan. C'est 773 départs en carrière. Je vous ai donné les chiffres là, de Max Scherzer. Il y en a eu, on parlait quand même de 400 quelques départs. Nolan Ryan, c'est 773 départs, puis 807 matchs au total, parce qu'en début de carrière, il ne faisait pas que des départs. On l'amenait également en relève. Et sur 773 matchs, il a 222 matchs complets. Donc, au moins un 9 manches lancé. C'est parce que on voit plus ça maintenant dans le baseball majeur. Pour vous donner une petite idée, on parlait de Max Scherzer. Là. Bon, on parle quand même de 17 saisons, de 455 départs, 464 matchs au total. Combien de matchs complets en 455 départs? 12. Et ça fait depuis la saison 2021 qu'il n'y en a pas eu un. Il y en a eu deux en 2018, deux en 2017, 4 en 2015, ça a été son record. Mais sinon, des matchs complets, même quand il a remporté le Cy Young en 2013, avec 21 victoires et 3 défaites avec Détroit, zéro match complet. Donc, la différence est là. Oui, il a réussi 3400 retraits au bâton en 2870 manches, mais on regarde Nolan Ryan, lui, il a lancé 5300 manches et réussi 5714 retraits au bâton. Donc, le chiffre est là, le pourquoi qu'il a autant de retraits au bâton. Mais bon, il y a des records évidemment qui ne seront probablement jamais battus, mais il y a d'autres records qui vont subvenir évidemment au cours des prochaines années dans le sport. Évidemment, on parle de baseball, mais il y a également le hockey, le football et tout, qui change toujours. Ben, parlant de hockey, bien la bonne nouvelle, on parle de Patrick Laine qui pourra repartir hein, on espère sur la bonne voie, enfin, l'attaquant des Blue Jackets de Columbus qui a été autorisé à revenir du programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Laine qui avait intégré un programme d'aide aux joueurs en janvier alors qu'il se remettait d'une fracture de la clavicule subie un mois plus tôt, a joué 18 matchs la saison dernière avec Columbus où il a inscrit 6 buts et 9 points. On a confirmé jeudi du côté de l'organisation que l'équipe continuerait d'explorer les possibilités, probablement une transaction pour Laine qui risque de recommencer la saison prochaine sous d'autres cieux. On sait que Laine avait signé pour 2 saisons supplémentaires avec un salaire annuel de 8,7 millions de dollars. L'ailier de 26 ans qui est le troisième joueur le mieux payé des Jackets derrière Johnny Gaudreau à 9 750 000 dollars et Zach Werenski à 9 580 000 dollars pour les joueurs les mieux payés de la ligue, en fait de l'équipe des Blue Jackets de Columbus. On revient dans le baseball. Hier, les Voyageurs ont subi une défaite de 3-2 contre les Diamants de Québec. C'est une 10e victoire de suite pour les Diamants. Les Voyageurs qui ont encore échappé une avance menaient 2-0 après 4 manches et demie et ont vu les Diamants créer l'égalité en fin de 5e. En fait, 5e, oui. Ajouter un point en fin de 6e, le point gagnant. Donc, victoire de 3-2. Thomas Ortiz qui a connu tout de même une très belle sortie dans cette rencontre. Les deux équipes qui vont se retrouver demain soir au stade Richard Demeule contre les Voyageurs donc, et les Diamants. Le match est prévu à 19h. Il est 15h49. Dans quelques instants, on va parler de soccer. Il y a le tournoi des sélections qui se poursuit un peu partout à Saguenay. Et là, ben, on est dans les dernières rencontres. On va aller faire un petit tour. Qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi avec un des membres de l'équipe Venturi et évidemment de ce tournoi, Sébastien Macias.
Arrête de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
On vous a appris à marcher. On vous a appris à écrire et à compter. On vous a appris un métier. Mais on ne vous a jamais appris à perdre un être cher. Le complexe funéraire Carl Savard, c'est 02-49-49.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Entrée, c'est ouvert!
Hein, wow! Tabarouette, Jimmy? Jimmy Girard de chez Hyundai du Saguenay, mon bon ami, qu'est-ce que tu fais par ici?
André, je passais dans le coin et il fallait absolument que je te transmette la superbe nouvelle, toi qui connais tout le monde.
OK, assis-toi, là, fais comme chez vous, puis dis-moi ce qu'il y a là.
Hyundai du Saguenay va recevoir plus de 88 véhicules 100% électriques de Ioniq 5 et Ioniq 6 pour pouvoir bénéficier de la subvention de 12 000 $.
Hey, la Ioniq, là, c'est pas celle-là qui a gagné le prix de voiture mondiale de l'année?
Exactement. Et en appliquant la subvention à la location, elle vous est offerte à 120 $ par semaine, 0 $ de comptant, 48 mois à la location.
Hey, c'est pas compliqué, là. Ça signifie plus d'essence, plus jamais, à 120 $ par semaine. Aïe, aïe, aïe!
VUS ou encore berline luxueuse, venez faire votre choix chez Hyundai du Saguenay, boulevard René-Lévesque, Jonquière.
Vous aimeriez faire vivre une expérience mémorable aux croisiéristes lors de leur escale à Saguenay? Vous avez de l'entregent, vous êtes débrouillard? Rejoignez l'équipe d'accueil des croisières internationales. Promotion Saguenay est à la recherche de préposés à l'information pour les autobus touristiques et aussi de préposés à l'entretien pour la haute saison des croisières internationales. Des emplois stimulants au cœur de l'action. Rendez-vous maintenant au www.promotion.saguenay.ca, section carrière, pour plus d'informations.
On parle soccer. Oh oui, on parle soccer avec, avec le tournoi des sélections régionales qui se poursuit et tire pratiquement à sa fin. Là, on est dans les dernières rencontres. Ça va se terminer demain avec le classement final. Et on a bien hâte de savoir comment ça se passe avec nos équipes de la région. Mais pour en parler, on a Sébastien Macias du groupe Venturi qui est avec nous. Sébastien, bienvenue!
Oui, bienvenue, bonjour à vous.
On a discuté en début de semaine avec Kevin Kiblier qui nous a parlé un peu de l'organisation de ce tournoi. Plusieurs centaines de joueurs et joueuses qui étaient ici pour cette semaine. Alors que le tournoi tire à sa fin, quelle conclusion on peut tirer de cette semaine ici à Saguenay?
Déjà, les conclusions, c'est qu'on avait 800 joueurs, 40 équipes, 20 garçons, 20 filles, et qu'on a, je pense, 100% des joueurs et des joueuses et des encadrements qui sont satisfaits d'être à Saguenay. On propose de super infrastructures, un super accueil. Donc, même au niveau des parents, je veux dire, ça a été une vraie réussite, je veux dire, pour nous. Le temps a fait aussi que tout s'est passé, je veux dire, de façon merveilleuse. Donc ça, c'est très positif. Sur l'aspect, on va dire, soccer, nos délégations, parce que nous on avait deux équipes chez les garçons et une équipe filles, se retrouvent quasiment dans le deuxième tiers en fait au niveau des régions. Donc c'est des résultats qui sont très positifs, puis avec un jeu proposé qui est en train de bien évoluer au terme de la compétition.
On sait que dans certaines régions le bassin de joueurs est assez impressionnant, mais parle-nous comment ça s'est passé pour nos équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ben c'est ça, je suis à un match de l'équipe garçon là, donc qui va rencontrer l'Estrie. Donc ils vont se positionner donc sur à peu près les classements c'est sur 20, ils vont se positionner entre la 12e et la 13e place. Donc ça va être quelque chose de positif pour eux. Au niveau des filles pareil, on est sur deux victoires et une défaite dans les trois premiers matchs. Donc pareil, demain elles vont jouer dans les positions à peu près similaires. Donc on est au niveau attendu. On pourrait penser qu'on peut faire mieux. On est en train de travailler. Donc c'est sûr qu'avec l'évolution depuis 2 ans avec le stade, eh bien, on pense que nos effectifs sont en progression permanente. Et puis là, à travers ce tournoi, on s'aperçoit qu'on est capable de lutter avec beaucoup d'équipes des régions de la province.
C'est ce qu'on avait hâte justement de voir avec la construction de ce stade intérieur où on pourra jouer 12 mois à l'année. Bon, maintenant que le stade est construit depuis environ 2-3 ans, on sent vraiment une amélioration du développement des joueurs et des joueuses?
Oui, tout à fait, même de l'amélioration, on va dire, par le volume, mais également, par le sens tactique. On a également qui va avec un volume d'entraîneurs depuis 2 ans que l'on cherche à diplômer le plus haut possible, à amener en expérience. Donc ça amène une vraie valeur. On a maintenant aussi un niveau, on va dire, sur la saison d'été, on va dire supérieur par rapport à ce que l'on proposait avant, avec l'équivalent d'un 3A, mais qui s'appelle pour nous la Ligue de développement provincial. Donc on joue déjà les équipes de Montréal, on joue les équipes de Québec en continu. Donc c'est sûr que l'adversité, par les niveaux de jeu, ben, nous amène à être de plus en plus, on va dire, efficace, optimale face au plus haut niveau. Donc cette évolution va vite depuis 2 ans avec le stade, mais c'est ça, voilà, on travaille également sur l'état d'esprit, la dynamique, on va dire, compétitive, avec des joueurs qui aujourd'hui ont des échéances et puis un avenir dans le soccer, même, on va dire, collégial en division 1, universitaire, avec des démarches où ils viennent nous demander qu'est-ce que je peux faire après ma 5e année, qu'est-ce que je peux faire après mon sport études, je veux évoluer, je veux aller plus haut, je veux continuer. Et ça, c'est la dynamique qui est donnée depuis 2 ans avec le stade et puis la fusion depuis 2020.
Sébastien Thomasini, donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean va lutter pour la 12e, 11e, 13e position, ce qui est quand même, respectable, évidemment, on est content de ça. C'est qui les régions qui dominent au niveau du soccer au Québec?
Ah, ben, si on prend les dernières années, c'est essentiellement les régions de Montréal. Donc Rive-Sud, qu'on appelle essentiellement. Après, tout ce qui est autour de Montréal, parce que le volume qualité est beaucoup plus important depuis quelques années. Et puis les infrastructures et la mise en place des programmes sont plus anciens aussi. Mais on s'aperçoit que les régions un peu plus, on va dire, comme capitale nationale ou l'Estrie là, qui va jouer contre nous, est en capacité maintenant à lutter. Et ça se joue vraiment sur des détails dans les matchs, en fait. On n'a plus des gros scores, on a vraiment du 1 but d'écart, 2 buts d'écart, alors qu'avant on avait des 5, 6, 7 buts d'écart. Là, aujourd'hui, il n'y a plus un match, entre guillemets, qui est facile pour n'importe quelle équipe.
Au niveau de l'achalandage, on a été chanceux, on a eu quand même de la belle météo tout au long de la semaine, peut-être une journée un peu plus pluvieuse, mais pour ce qui est de l'achalandage dans les 4 terrains où on se disputait les rencontres, comment ça a été?
C'est bien, c'est ça, je disais, c'est que les tribunes sont pleines. Là, je suis à la baie, tu vois, un stade en herbe où c'est que les gens ne sont pas habitués à venir, à jouer. Les tribunes, on a 8 tribunes de 30 places, c'est plein. Je veux dire, il y a du monde, il y a du bruit, les gens se déplacent, les parents se sont déplacés. Et ça, c'est partout, je veux dire, sur l'ensemble des terrains, que ce soit au Soccer Dome, que ce soit au Cégep de Jonquière ou à Arvida. C'est-à-dire, on a fait une superbe cérémonie d'ouverture, pareil, avec un stade plein. Donc, c'est vraiment un bel événement. Tu vois, on parlait de météo, le seul jour où c'est qu'il a plu, c'était hier, et bien c'était la journée de repos pour tout le monde. Donc, ça a permis de souffler et de rafraîchir. Non, c'est vraiment de ce côté-là très, très, très positif.
Et les commentaires des joueurs, des joueuses également, des parents, parce qu'évidemment, il y avait quand même plusieurs parents qui se sont déplacés pour venir voir leurs jeunes. Quels sont les commentaires de leur passage au Saguenay?
Ben c'est ça, c'est dans la dynamique de ce que j'ai énoncé, je veux dire, c'est très positif. Là, les jeunes sont installés à l'école Arvida, donc tout est fait sur place, les repas, je veux dire, le fait de dormir, toutes les activités sont faites autour de l'école Arvida. Donc ça a été une très bonne chose et puis une simplicité au niveau des délégations. Ensuite, hier, ils ont pris les bus, ils sont allés se balader dans la région. Les parents ont récupéré leurs enfants, ils ont visité le Saguenay. Et puis même au-delà, il y en a qui sont allés aux eaux de Saint-Félicien, il y en a qui étaient à la baie, il y en a qui étaient partout. Donc ils apprécient également la région. Ils sont tous dans les campings. Bon, beaucoup sont sur le camping de Jonquière, mais il y en a qui sont vers Alma, il y en a qui sont vers la baie. Donc tout le monde a nécessairement un réel enthousiasme pour la région. Et donc là aussi, je veux dire, on voit des gens heureux de venir voir leur match, mais de prendre leurs enfants ou d'aller se balader après, d'aller se baigner, donc d'aller profiter du beau temps. Non, c'est vraiment une réussite de ce côté-là aussi.
Alors, il y a encore des rencontres. Je pense que les derniers matchs vont débuter dans quelques instants.
C'est ça, maintenant, là, oui.
Oui, et demain, à compter de 8 heures, on a toutes des rencontres jusqu'en après-midi.
C'est ça, de 8h quasiment à 16h, eh bien, on a toutes les équipes qui vont jouer autant garçons-filles, eh bien, leur finale, c'est-à-dire leur place finale. Donc, ça va être sur les quatre sites. Et puis, voilà, le dernier match et tout le monde quitte.
On avait fait de la place pour les jeunes arbitres. Il y avait des surveillants, instructeurs pour ça. On parlait quoi, d'une quarantaine de jeunes arbitres? Comment ça a été de ce côté-là aussi?
Parfait, ouais, c'est pareil. C'est très formateur, je veux dire, voilà, pour Soccer Québec. Il faut savoir que Soccer Québec, la fédération, est descendue avec tout son staff de contrôle. Donc, chaque région, en fait, a présenté deux arbitres, enfin, au minimum deux arbitres, un arbitre garçon, un arbitre fille. Donc, je veux dire, c'est très formateur pour eux. Ils sont, en plus de leur match, je veux dire, ils ont différentes situations. Ils analysent leur match également après la fin en soirée. Ils se réunissent tous, ils partagent. Donc, c'est très formateur de ce côté-là. On sait que c'est une aussi des démarches que l'on souhaite dans le développement, on va dire, du soccer. C'est une amélioration et puis une expérience, on va dire, pour nos arbitres, de façon à avoir un vrai bon arbitrage en continu. Donc, ça fait partie de la démarche, tout comme pour les joueurs. Je veux dire, au niveau de l'arbitrage, des retours que j'ai eus hier soir, tout le monde était très satisfait et puis on voit une belle évolution à ce niveau-là aussi.
Sébastien Macias du groupe Venturi, merci beaucoup et bravo à toute l'organisation pour cette belle semaine. Je pense que les gens d'un peu partout au Québec ont pu voir qu'à Saguenay, on est capable de préparer ce genre de tournoi qui est quand même d'envergure au Québec et ça peut montrer une belle image de la ville, de la région, du soccer pour dire que nous, on est prêts à rentrer dans la Grande Ligue également.
Bien, merci beaucoup. Et bien, moi, je voulais juste remercier l'ensemble des bénévoles et puis dire que demain, si les gens ne savent pas quoi faire, ils peuvent venir passer une heure au bord des terrains. Et ils vont voir les meilleurs 14 ans, on va dire, garçons-filles de la province. Et on est en période de JO, il y a les filles qui jouent, il y a l'équipe nationale qui a fait des bons résultats. Mais ça, c'est les futurs joueurs et joueuses de l'équipe nationale Team Canada. Donc, vous pouvez vous déplacer sur les quatre terrains et vous verrez du beau soccer.
Bravo encore une fois. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à vous.
Sébastien Macias, donc du groupe Venturi, le tournoi des sélections donc qui tire pratiquement à sa fin avec les dernières rencontres du jour. Là, aujourd'hui, là, il y a quatre rencontres qui vont débuter dans quelques instants, si ce n'est pas déjà commencé. Les Laurentides contre Bourassa, Concordia contre Lac-Saint-Louis, l'Est du Québec contre Chaudière-Appalaches et le Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau masculin au terrain de soccer. John Kane de la Baie joue actuellement contre l'Estrie. Et demain, dès 8h, on va commencer ça, les rencontres pour le classement. Comme Sébastien nous mentionnait, 40 équipes, 20 équipes garçons, 20 équipes de filles qui vont se classer. Alors, ce sera des rencontres pour décider d'une place ou une autre. Donc, ça va commencer au niveau féminin à 8h avec les matchs pour la 9-10e place, 11-12e, 13-14 et 15-16. Par la suite, on continuera avec les 3e, 4e, 7e, 8e. Donc, le classement déjà décidé va décider avec la rencontre si vous terminez à une place ou une autre. Dans quelques instants, on va aller rejoindre Jean-Michel Tremblay, nous parler de Formule 1, 14e étape de ce championnat 2024 qui est quand même haute en couleur, on va se le dire, avec les victoires. Quand même 7 pilotes qui ont remporté des victoires au cours des dernières semaines. Et là, bien, on s'en va pour du côté de la Belgique à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix, dernier Grand Prix avant la trêve de 3 semaines où tout le monde va prendre une pause, quelques petites vacances avant le dernier blitz de la saison. Il en sera question après la pause avec Jean-Michel Tremblay. L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge Chrysler.
Chez Tôle du Royaume, nous avons les meilleurs prix parce que nous sommes les seuls à fabriquer du revêtement d'acier dans la région. Exemple, besoin de revêtement d'acier pour toiture et mur extérieur, 4 couleurs de disponibles feuilles de 8 pieds à 36 $ ou 1,50 $ du pied carré. Économisez de l'argent, achetez du fabricant. Tôle du Royaume, 1200 Boulevard du Royaume, voisin du centre de liquidation du travail.
Non seulement la Fromagerie Boivin fait le meilleur fromage au monde depuis des générations, le meilleur petit crémeux, la meilleure poutine, elle fait aussi de la magie.
J'aime tellement le fromage Boivin que j'en mets même dans mes céréales.
La Fromagerie Boivin, fabricant de souvenirs depuis des générations.
Chez Kia Rolls d'Auto, on célèbre 25 ans d'innovation au Canada avec le Kia Seltos 2024. Embarquez dans un Kia Seltos 2024 et profitez d'offres de location et financement dès aujourd'hui. Kia Rolls d'Auto, du mouvement vient l'inspiration.
Promo Thermacell chez Chasse et Pêche Chicoutimi. Obtenez le tout nouveau modèle pour $34,99, incluant l'étui, les recharges et la tâche. Chasse et Pêche Chicoutimi, coin auto.
La chronique F1 avec Jean-Michel Tremblay, une présentation de location de chalet Habitat Boréal et de la microbrasserie Opéra qui vous invite à écouter le podcast Le Paddock.
Course automobile.
C'est probablement le plus beau circuit, le plus spectaculaire, paysage fantastique, plein de rebondissements. Puis encore une fois, je regarde aller les choses avec les essais libres. J'ai aucune idée qui pourrait remporter cette course-là. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Jean-Michel Tremblay, aide-nous donc, là.
Ben écoute, on va essayer bien sûr de démêler tout ça. Écoutez, on est là pour ça, hein? Donc, comme tu l'as bien fait de la mentionner, 14e épreuve du championnat du monde de Formule 1 en fin de semaine. Donc quand même, on a déjà passé la mi-saison.
Déjà.
Et après ça, ben, on s'en va pour une pause de 3 semaines. Donc on recommence seulement à la fin du mois d'août. On va se retrouver au Grand Prix des Pays-Bas dans les terres de Max Verstappen. Si tu permets, Dominique, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le super Grand Prix qu'on a eu la semaine passée?
Absolument. Grand Prix de Hongrie, petit circuit très intéressant. Et j'avais hâte de voir quelle voiture allait tirer son épingle du jeu. Les McLaren, en ce moment, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure voiture sur le circuit?
On peut maintenant le dire.
Oui, hein?
Je pense que c'est clair.
Quelle remontée extraordinaire. Je suis tellement content. On est loin de... tu sais, ça fait quand même longtemps, là, on se souvient des McLaren Mercedes. C'est le même moteur qu'on avait avec Mika Hakkinen, avec David Coulthard. Faut quand même, je pense, remonter à cette époque-là. Oui, il y a eu Lewis Hamilton à certains moments, mais d'avoir une domination, de voir un duo tout le temps en tête avec Norris et Piastri, je pense qu'il faut remonter à Hakkinen et Coulthard d'une vingtaine d'années.
Absolument. Faut remonter assez loin. Puis écoutez, chapeau vraiment à l'écurie McLaren. On a juste à se rappeler, l'année passée, en début de saison, on n'était pas loin d'être la pire voiture du plateau. On a réussi quand même à faire des améliorations extraordinaires en cours de saison pour finir la saison en force. Cette année, en début de saison, on n'était pas encore au niveau où est-ce qu'on voulait être. Mais écoutez, j'ai sorti les comparatifs des derniers Grands Prix, puis je vous dirais que du côté de chez McLaren, ça a commencé vraiment à s'envoler à partir du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Juste pour vous donner une idée, quand même, dans les 7 derniers Grands Prix, c'est arrivé une seule fois que Red Bull marque plus de points que McLaren, ce qui fait en sorte qu'après le Grand Prix d'Hongrie, Dominique, puis on a 13 Grands Prix de fait, 51 points d'écart entre McLaren et Red Bull. Donc, le championnat des constructeurs est très grandement en danger, je pense, pour Red Bull. Donc, ça va être très intéressant.
Et la différence qu'on voit actuellement, Jean-Michel, c'est que chez les McLaren, les deux pilotes se suivent beaucoup, tandis que chez Red Bull, qu'est-ce qui se passe avec Sergio Perez? C'est catastrophique.
Ah, c'est malheureusement pour Checo, je ne sais pas s'il est en train de mettre fin à sa carrière, mais comme tu l'as mentionné, ça va vraiment pas bien de son côté. Là, écoutez, si on regarde les derniers Grands Prix de Sergio Perez, dans les 6 derniers Grands Prix, on a marqué, écoutez, on peut même étendre ça à 7 derniers Grands Prix, on a marqué 20 points. C'est complètement inacceptable pour un pilote qui possède la même voiture. Il faut le dire que Max Verstappen, qui est encore premier au classement des pilotes, mais il y a Lando Norris qui s'approche à 76 points. Donc, qui aurait pu dire ça en début de saison? Je me rappelle encore, on en a discuté avec Michel. On se disait qui va gagner cette année. Wow! Ça ressemble pas mal à Max Verstappen, encore une fois, de la manière qu'il était parti. Mais chapeau à Zach Brown et son groupe Andrea Stella, le directeur technique qui est là, toute l'équipe qui est en place, les gens qui travaillent à l'usine. Le point que tu as mentionné, je trouve qu'il est le plus important, Dominique, c'est on a deux pilotes performants, oui. Chose qui manque cruellement à Red Bull. Donc, Red Bull, on a vraiment une super vedette et quelqu'un, normalement, qui doit le seconder. C'est entre autres pour ça aussi qu'on a fermé la porte rapidement à Carlos Sainz aussi, qui est à la recherche d'un volant, parce qu'on le sait qu'avant de signer Perez, on savait très bien que Carlos Sainz était disponible. Oui. Mais je pense qu'un ménage Verstappen-Sainz aurait tourné à la catastrophe. Du côté de chez Red Bull, ben on connaît Verstappen, c'est quand même une super vedette de la Formule 1. C'est clairement lui le pilote numéro 1, mais je pense qu'un Carlos Sainz n'a pas du tout la même attitude et le même niveau de performance qu'un Perez. Donc, je pense qu'on ne voulait pas avoir à gérer ça du côté de chez Red Bull. Tout ça pour dire qu'au dernier Grand Prix en Hongrie, première victoire de Oscar Piastri. Oscar Piastri qui a réussi à voler, à connaître un meilleur départ que Lando Norris.
Étais-tu d'accord avec la stratégie de laisser gagner Piastri quand Norris est deuxième au championnat?
Je pense qu'honnêtement, McLaren, on n'est pas rendu à jouer le championnat encore de leur côté. Puis ça fait partie des messages vraiment qu'on a dit à Lando Norris, mais on peut comprendre sa réaction. Piastri était bien en selle, mais c'est l'écurie qui a fait une erreur au niveau de la stratégie. On a dit à Piastri, ben inquiète-toi pas, on va faire arrêter Norris, mais t'es confortablement en avant, tu vas ressortir en avant et tout. Mais finalement, Norris s'est retrouvé à faire l'undercut à son coéquipier. Et quand on s'est aperçu de l'erreur, ben on a mentionné rapidement. On a envoyé une commande à Lando Norris qu'on voudrait redonner les positions, étant donné que c'est l'équipe qui s'est trompée. Mais on peut comprendre Norris aussi. Lui, il fait sa course. On fait une stratégie qui permet de dépasser son coéquipier. Il ne veut rien savoir de redonner la place à son coéquipier. Puis je pense que c'est juste normal. Ces gars-là, ce sont tous des gagnants. Et quand on leur demande ce genre de choses-là, c'est pas facile à avaler. Surtout quand on est dans le feu de l'action comme ça, Lando Norris a fini par le faire à quelques tours à la fin. Il y avait quand même presque 6 secondes d'avance sur son coéquipier Oscar Piastri. Donc, rendu au dernier virage, il a pratiquement sauté sur les freins pour attendre jusqu'au temps que Piastri puisse le passer. Et je pense qu'il a voulu montrer un message aussi à son écurie. Regarde, je me suis forgé une avance de 6 secondes. Si Piastri voulait gagner, il y avait qu'à me dépasser. Mais bon, on a entendu l'ingénieur de Piastri et de Norris souvent dans les communications radio. Et on a vraiment dit à Norris, si tu veux gagner le championnat plus tard, tu vas avoir besoin d'Oscar, tu vas avoir besoin de l'équipe. Pense à l'équipe l'équipe. Puis c'est ce que j'ai aimé, c'est que McLaren, c'est une équipe.
Oui.
Donc, c'est pas, par exemple, comme chez Red Bull, Verstappen, c'est la super vedette. Là, du côté de chez McLaren, on pense vraiment en équipe. Et je pense que c'est une stratégie qui est intéressante parce que cette année, on a de très bonnes chances de croire, je crois, qu'on peut décrocher le titre des constructeurs. Ça, c'est quelque chose qui est apporté demain, là, vraiment, chez McLaren pour cette année. Et si tu veux qu'on termine avec le Grand Prix de Hongrie, ben, 200e podium pour Lewis Hamilton.
Absolument.
Donc, continue à briser des records malgré la saison en dentis un petit peu de chez Mercedes. Quoi qu'on a retrouvé des couleurs là, dans les dernières courses, mais on continue les bonnes performances.
On pensait pas en début de saison, quand ça a commencé, on en a parlé un petit peu, de voir qu'après 14 Grands Prix, il y a eu 7 gagnants différents.
C'est ce qui fait la beauté.
Oui.
Lundi, lors vraiment de quand moi et mon ami Pierre-Olivier, on a commencé notre épisode du podcast. Wow! Enfin, une saison que les gens attendaient. Puis je pense que peut-être les gens qui nous écoutent vont être d'accord. Depuis 2021, les occasions où est-ce qu'on a pu écouter un Grand Prix stressé, assis sur le bord de notre sofa, vraiment à se demander qu'est-ce qui allait se passer. C'est des sensations qu'on aime en tant que fan de Formule 1. Puis on s'en est parlé souvent, hein, toi et moi, Dominique. Se battre pour une deuxième place, c'est beau, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est se battre pour la victoire. Fait que cette année, vraiment, on a la chance d'avoir une saison, je pense, qui est vraiment contre toute attente. En tout cas, du moins, dans les deux premiers Grands Prix, moi, j'aurais pas pu vous dire qu'est-ce qui se passe présentement. Mais ce qui prouve une chose, c'est que le concept de Red Bull est pas mal arrivé à maturité. Et ben là, il y a des gens à gauche et à droite dans d'autres écuries qui ont commencé peut-être à même comprendre des choses peut-être qu'on n'avait pas vues chez Red Bull, ce qui fait en sorte que les voitures s'améliorent grandement. Et on n'a pas le choix de faire le parallèle, Dominique, avec le départ d'Adrian Newey. On dirait que les problèmes de Red Bull commencent.
Depuis qu'il est parti.
Du moins, depuis qu'on l'a mis à l'écart des affaires courantes, ce qui est normal, parce que s'il veut s'en aller ailleurs, ben on ne veut pas bien sûr lui dévoiler nos plans pour l'avenir, ni pour 2025, ni pour 2026. Mais on dirait que le château fort Red Bull commence à craquer pas mal. Je vous dirais, depuis à peu près les 6 derniers Grands Prix, là, c'est pas mal là que ça commence à moins bien aller. Puis au niveau des points, ben écoutez, c'est... Comme je vous mentionnais, c'est en grande majorité McLaren qui sont allés les chercher. Et tout à l'heure, ben, en début d'entrevue, tu parlais des essais. Écoutez, on est encore un 2 là, avec McLaren.
Absolument.
Donc, surtout en fin de semaine, c'est une occasion qui est très importante pour eux puisque Verstappen va écoper d'une pénalité de 10 places pour utiliser un 5e unité de puissance. Non. Puis on se souvient, pour les gens peut-être qui ont suivi un petit peu plus cette saison, au Grand Prix du Canada, Verstappen avait monté une nouvelle unité de puissance, mais malheureusement, il y avait une défectuosité sur ce moteur-là, donc ce qui fait en sorte qu'on avait dû revenir à un moteur qui était plus usé un peu pour le Grand Prix du Canada et les Grands Prix suivants. Mais ce moteur-là, même s'il y a une défectuosité, comptait quand même comme une des 4 unités de puissance qu'on peut utiliser dans la saison. Donc, on a dû en monter une 5e parce que l'autre était arrivé à la fin de son kilométrage utile.
Et surtout que du côté de la Belgique, c'est probablement le circuit où le moteur est à plein régime le plus longtemps. T'sais, c'est quand même un circuit de plus de 6 km avec de grandes lignes droites. Le moteur va être épargné. Donc, je pense que la décision, puis on l'a accepté du côté de Verstappen et de Red Bull, on est mieux de changer de moteur tout de suite pour espérer finir probablement dans les points et éviter que, justement que l'autre moteur flanche et qu'on tombe en panne et qu'on ait un abandon.
Effectivement. Ben, du côté des ingénieurs aussi, on a des données ultra précises sur l'usure de chacune des composantes qui bien sûr, forment cette unité de puissance-là. Donc, je ne suis pas inquiet qu'on a pris la bonne décision de ce côté-là. Donc, ça devient à ce moment-là d'une importance capital que Max Verstappen connaisse une qualification incroyable demain. C'est sûr que si on regarde les temps qui ont été faits aujourd'hui en essai, on n'est pas très loin. Donc, on est à 2/10 quand même du temps de Lando Norris et 2/1000 de Oscar Piastri. Donc, les trois premiers sont pas mal regroupés parce qu'après ça, si on passe à Charles Leclerc en 4e place, on est déjà presque à 6/10. Donc, il y a quand même un écart de presque 4/10, je vous dirais, entre les trois premiers et le groupe suivant. Et tu as mentionné tout à l'heure que c'est un circuit qui est long. C'est un circuit de 7 km. Donc, il ne faut pas aller plus loin que la 6e position pour avoir une seconde d'écart avec Lando Norris. Donc, ça sera important, la position sur la grille de départ, surtout pour Verstappen. Je crois que c'est lui, honnêtement, qui a le plus à perdre en fin de semaine. Même du côté de chez Red Bull, bien, on a quand même Perez qui a terminé 9e aujourd'hui du côté des essais. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, demain pour les qualifications, on a 75% de probabilité d'averse. Qui puisse arriver sur le circuit. On dit que ça pourrait être le matin, donc on pourrait peut-être s'en sauver pour la qualification. Donc, ça sera à voir, mais si jamais c'est sous la pluie, parce qu'on le sait que c'est très rare d'avoir un Grand Prix sur le sec du côté de la Belgique, hein, dans les Ardennes, c'est dans les dernières années, on a vu beaucoup de choses se passer là, malheureusement des choses un peu plus dramatiques. Là. On a encore, bien sûr, Pierre Gasly a remémoré on commémore toujours le décès de son bon ami Antoine Hubert. Absolument. Donc, à chaque année, tous les pilotes vont se recueillir. Et du côté du célèbre virage aussi au rouge, ben, c'est justement là qu'arrivent la plupart des accidents. Ils ont des travaux importants qui ont été faits dans les dernières années, mais ça demeure un des virages ou le virage, selon moi, le plus spectaculaire et le plus technique aussi.
Et le plus dangereux probablement aussi.
Oui, mais il ne faut pas oublier que les voitures aussi, depuis 2022, on est capable de passer ça à fond. Oui. Chose qu'avant, c'était pratiquement impossible de faire.
Fallait lâcher l'accélérateur un petit peu.
Ou sinon, il fallait être équilibriste. Donc, se dire, j'y vais, puis soit ça se termine bien ou soit ça se termine mal. à ce moment-là aussi, ben, si on regarde les autres pilotes qui ont terminé un petit peu plus loin dans le classement, ben, on a eu des petites nouvelles aussi cette semaine. Je peux vous parler de Esteban Ocon.
Absolument.
On connaît maintenant l'avenir d'Esteban Ocon. Hein, donc, il a quand même terminé septième dans les pratiques aujourd'hui, ce qui est bien. Puisqu'en première séance d'essai libre, il n'a pas pu rouler. Ben, en fait, il a fait un tour. Dès son tour de sortie, on a détecté une fuite d'eau dans le système de refroidissement. Mais l'écurie a fait du bon travail pour le ramener en deuxième séance d'essai libre. Puis il a terminé septième. Et bien, cette semaine, on a annoncé que Esteban Ocon va être le coéquipier de Oliver Bearman chez Haas. Donc, une place de moins de disponible l'année prochaine. Là, maintenant, si on fait le décompte, il y a 5 places de libre encore pour l'an prochain. Okay. On en a une chez Mercedes. Puis le jeune Kimi Antonelli tourne encore avec les Mercedes des dernières années. Donc, on veut vraiment être certain chez Mercedes que c'est lui ou c'est pas lui. Puis je pense que c'est ça que Carlos Sainz attend aussi, parce qu'on s'entend qu'un pilote de la trempe de Carlos Sainz, s'il y a une moindre chance que tu puisses piloter pour Mercedes, au lieu de piloter chez Williams, chez Audi ou bien dans une autre écurie qui est encore, ou chez Alpine même, qui est encore à la recherche d'un pilote, ou même chez RB. Donc, ce sont tous des écuries qui sont les 5 dernières au classement général. Donc, c'est certain que je pense que du côté de Sainz, on veut vraiment être fixé là-dessus. Donc, écoutez, ça sera à voir pour ça, mais il commence à rester pas beaucoup de baquets de disponibles. Puis, je vous ai parlé de Audi il y a quelques secondes, mais Audi... Pourquoi ce n'est pas intéressant pour un pilote comme Carlos Sainz? Écoutez, la voiture n'a même pas mis une roue sur la piste. Le moteur 2026 n'a jamais pris la piste. On n'est même pas en 2026. Puis il y a déjà un peu des guerres de pouvoir, malheureusement, qui s'installent dans la direction, dans la haute direction. Cette semaine, on a limogé la personne qui est Andreas Seidel, qui était le responsable du projet chez Audi. On a limogé le président du conseil d'administration aussi. On a engagé Mattia Binotto.
Mattia Binotto, l'ancien de Ferrari, oui.
Effectivement, pour mener à bien ce projet-là. Donc, c'est un peu comme Alpine. Puis Alpine aussi, ben écoutez...
Ça a brassé, ben oui.
Ben c'est ça, tant qu'à rester dans les nouvelles un petit peu plus de deuxième étage, ben Bruno Famin, qui avait été nommé en début de saison responsable des opérations. Là, on voit que depuis l'arrivée de Flavio Briatore, ça bouge beaucoup chez Alpine. Donc, je pense qu'on est allé chercher vraiment quelqu'un pour faire le sale boulot, comme on dit. Hein? Donc, Flavio Briatore est en train de mettre ça à sa main un petit peu comme dans le temps de Benetton, dans les premières années de Renault aussi. C'est lui qui était aux commandes de tout ça. C'est lui qui est allé chercher Michael Schumacher aussi dans le temps de Benetton. Donc, vraiment, c'est ça. On a annoncé que Bruno Famin allait céder sa place. Il y a un nouveau directeur qui va être nommé. C'est quelqu'un qui est responsable présentement des écuries de F2 et F3 du programme de pilote alpine junior. Là. Donc, on va monter cette personne-là en Formule 1. Puis du côté de chez Alpine aussi, ben on avait parlé aussi de la possibilité qu'on puisse, bien sûr, en 2026, ne pas produire notre propre moteur et faire affaire avec un partenaire qui aurait probablement été identifié comme Mercedes. Mais on en a appris un petit peu plus aujourd'hui sur les intentions. Et ça dépasse largement le cadre de la Formule 1, parce que ce qu'on veut faire chez Alpine, grosso modo, et c'est un gros projet pour la marque Alpine et non pour l'écurie de Formule 1, c'est qu'on veut récupérer le site de Viry-Châtillon en France, où est-ce que le moteur de Formule 1 est développé et assemblé, et on veut en faire un centre de performance et de développement pour la marque Alpine, puisque dans les prochaines années, il y a 7 nouveaux modèles de voitures alpines qui doivent s'en venir. Donc, on a besoin de place et on a besoin d'ingénieurs du côté du groupe Renault pour travailler là-dessus. Donc, ça serait une bonne chose de leur côté. On aurait seulement l'usine en Angleterre qui s'occupe du châssis. On aurait un partenaire moteur qui s'appelle Mercedes et on achèterait tout ce qu'on peut acheter de Mercedes, un peu comme l'a fait Aston Martin. Donc, okay. La suspension arrière, la boîte de vitesse, le moteur, le train arrière. Donc, vraiment, tout ce qu'on peut acheter, on pourrait le faire aussi de leur côté. Et c'est sûr que ben, pour l'entreprise, donc le groupe Renault qui veut vendre des voitures, ben pour eux, ça serait une bonne opération parce qu'on ne se cachera pas que développer à l'interne un moteur de Formule 1, surtout quand vous n'avez pas de clients et qu'ils le vendent, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Puis là, ben, on pourrait prendre nos meilleurs ingénieurs puis les faire travailler sur quelque chose qui va rapporter de l'argent au groupe Renault dans l'avenir, donc avec les voitures alpines. Donc, c'est vraiment, je vous dirais un petit peu le tour de l'actualité là, cette semaine qu'on a eu en Formule 1. Sinon, si je regarde rapidement. Donc, je pense qu'on a pas mal couvert ce qui s'est passé cette semaine. Peut-être une petite dernière, Mastercard qui revient en Formule 1 en tant que commanditaire. Donc, la dernière fois qu'on les avait vus, ça remonte au temps de Jordan.
Et c'est vrai.
Vous connaissez un peu les couleurs de Mastercard, je ne vous cacherai pas qu'ils vont s'en aller avec ce qui fit le plus, avec McLaren. Donc, ça fera une belle compétition entre Visa, Cash RB et McLaren. Donc, la compétition des cartes de crédit. Écoutez, peut-être qu'ils vont les aider s'il y a des accidents. Donc, on faisait des blagues cette semaine là-dessus. Mais c'est une bonne nouvelle. McLaren qui attire très aisément les très gros sponsors. Donc, ça va super bien pour le groupe de l'Américain Zac Brown depuis quelques temps. Et je pense qu'on va... j'ai bien hâte qu'on s'en reparle la semaine prochaine, de voir comment ça s'est fini. Je pense qu'on va avoir une très belle course, encore une fois, en fin de semaine. Ce qui est fun maintenant, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner. Tout le monde attendait ça depuis 2 ans. Et enfin, on y est.
C'est à suivre. Donc, les heures habituelles, les heures d'Europe, évidemment, pour les qualifications et le Grand Prix?
Oui, absolument. Donc, la qualif à 10 heures, la course à 9 heures. Donc, depuis 3 ou 4 Grands Prix, on est pas mal là-dedans. Là, des fois, c'est l'inverse. Là. Mais qualif à 10 demain matin et la course à 9 heures dimanche matin. Donc, on pourra bien sûr faire le point là-dessus vendredi prochain et se souhaiter ensuite une bonne pause estivale de Formule 1.
Jean-Michel Tremblay, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Alors voilà, c'est ce qui complète cette semaine de sport avec la Formule 1 Grand Prix de Belgique qui aura lieu en fin de semaine, qui risque d'être très intéressant. Et surtout sur le circuit de Spa, qui est tellement un beau circuit dans les montagnes, de grandes lignes droites. Évidemment, les moteurs seront très, très, très utilisés et poussés à bout. Ce sera aux meilleures voitures, évidemment, de performer. Et on verra tous les détails. On aura d'autres détails avec Jean-Michel la semaine prochaine. Il est 16h26. On ferme le vestiaire. Dans quelques instants, c'est le retour du 92.5, la dernière de la semaine.
On ferme le vestiaire. De retour lundi, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez... L'Étoile Dodge!